L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. L'après-match aujourd'hui consacré bien entendu aux conséquences du coronavirus sur le sport, le football, partout dans le monde. J'accueille pour débuter cette édition de l'après-match Fred Hermel à Madrid. Salut Fred.
Bonsoir Jalal, bonsoir à tous, avec Fred Hermel qui est enfermé chez lui, mais qui vous envoie un grand sourire à tous et à toutes.
Avec nous également depuis Paris, Hervé Penaud, salut Hervé.
Bonsoir à tout le monde. Bon bah, une grosse bise de Paris où je suis effectivement confiné de la même manière que Fred. Ainsi, notre vie en ce moment, voilà, c'est comme ça. Faut faire avec et puis espérer que les jours meilleurs arrivent très vite.
Et je vous annonce qu'à partir de demain, on sera, nous aussi, toute la rédaction sportive de Médien, confinés à la maison. Et l'arrêt de toutes les émissions sportives, de tous les rendez-vous sportifs sur Médien jusqu'à nouvel ordre. On va consacrer cette édition de l'après-match, bien entendu, à cet événement, bien sûr, le coronavirus. Mais avant, un tout petit mot de football, Hervé, avec toi, avec cette réunion, bien sûr, de la CAF, la Confédération africaine de football, qui a désigné le stade Japoma de Douala au Cameroun pour accueillir la finale de la Ligue des Champions. Et puis, bien sûr, le stade, le complexe Malabla de Rabat, pour accueillir cette fois la finale de la Coupe de la Confédération. Hervé.
Oui, alors donc c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun, évidemment, puisque c'est un nouveau stade qui a été construit en fonction de la CAN 2019, rappelons-nous. Et elle qui aura lieu finalement en 2021, qui aurait dû être aussi utilisée pendant le Tchad. Alors je dis qui aurait dû, parce que l'interrogation aujourd'hui subsiste. Il y a une rencontre demain entre les dirigeants du Shoshan, plus l'OMS, plus la CAF, pour décider un peu de la suite à donner à ce championnat d'Afrique des Nations. Et on a bien compris que dans l'ombre pointe aussi une annulation, en tout cas un report de cette compétition, un report je ne sais pas quand, là ça va être un petit peu compliqué, mais puisque beaucoup de pays ont décidé de fermer leurs frontières, de pays africains, on se rend bien compte que les équipes ne seront pas en regroupement. Bon, on l'a vu pour le Maroc, là, les dernières décisions, on le voit pour pas mal d'autres pays, où il y a des interrogations qui sont en train de naître. On a vu les éliminatoires africains qui ont été annulés, donc voilà, le CHAN, il tient que par un fil, et j'ai bien peur que ce fil soit assez vite rompu. D'autant plus qu'au Cameroun, on annonce un quatrième cas de coronavirus. Alors, c'est pas énorme en soi, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est la propagation du virus. Donc, j'ai bien la sensation qu'aujourd'hui, tout va s'arrêter, même sur le continent, même s'il y a eu des matchs féminins, faut pas l'oublier ce week-end. Mais là, on a la sensation que c'est un arrêt qui va être envisagé par la Confédération africaine de football. Et puis après, un report à on ne sait pas quand. Mais alors, Japoma devait être un des stades. Donc, ça va être une belle finale, si. Toutefois, la finale a lieu fin mai, et pareil à Rabat. Rabat, bon, on connaît déjà beaucoup plus, c'est un stade qui a fait ses preuves, mais on ne sait pas non plus quand aura lieu la finale de la Ligue des Champions, ni la finale de la C3 africaine, parce que quand est-ce que vont reprendre les compétitions? Alors aujourd'hui, effectivement, le continent est peu touché, si on le compare aux autres pays. Il y a des mesures de prévention qui ont été prises, on l'a vu avec le Maroc qui a décidé de fermer notamment ses frontières aux Français, donc pour éviter comme ça et pour endiguer un peu cette propagation du virus. Donc si jamais les pays africains arrivent à gérer mieux que les pays européens...
Mon cher Hervé, fermeture des frontières pas qu'aux Français, c'est une fermeture totale de frontières marocaines.
Oui, totale. total des frontières marocaines. Là, je parlais juste par rapport à nous, à la France, par exemple, qu'on avait vu récemment. Donc, peut-être qu'en confinant comme ça les pays, ça va peut-être aider à éviter que le virus se propage trop rapidement. Et peut-être qu'on va pouvoir gérer un petit peu mieux les choses. Et qu'effectivement, au bout d'un mois ou un mois et demi, il y aura une possibilité d'avoir des compétitions. Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas épidémiologue. Mais toujours est-il que, bon, des décisions radicales ont été prises dans pas mal de pays africains. Hein. Le Maroc, c'est allé au bout des choses. Mais d'autres aussi ont pris des décisions assez radicales, et ça peut-être et certainement endiguer un minimum le virus. Alors, mais est-ce que d'ici là, est-ce qu'on pourra disputer des demi-finales de Ligue des Champions et après une finale? Ça reste quand même une vraie interrogation, surtout qu'on parle d'une finale qui aurait lieu fin mai, donc c'est deux mois, c'est rapide, c'est à la fois long et très rapide. Maintenant, on peut espérer qu'au Maroc, que ça ne se développe pas vite et que les équipes puissent jouer de la même manière en Égypte, hein, puisque ce sont des équipes égyptiennes et marocaines qui se retrouveront sur les demi-finales puis la finale. Donc on peut espérer que dans ces deux pays, la propagation soit très lente et qu'on puisse d'ici assez vite pouvoir rejouer au football.
Voilà donc pour ce point de l'actualité par rapport au football africain. On va aller du côté de Madrid. Madrid, l'une des villes les plus touchées par le coronavirus. Bien entendu, même l'OMS qui annonce que l'épicentre désormais du virus se trouve en Europe occidentale. Confinement, état de siège pratiquement en Espagne. Comment l'Espagne du football, comment Fred déjà, notre magnifique, notre cher regard sur ce football espagnol qui nous fait vibrer chaque semaine, mais plusieurs fois par semaine. Comment tu vis toi ça déjà à titre personnel, Fred?
Je vis ça plutôt bien, je vais vous dire la vérité, parce que j'ai la chance de louer une petite maison avec un patio où il y aura bientôt du jasmin, donc je peux prendre l'air sans problème, alors qu'il est interdit de sortir, sauf pour aller chercher à manger ou des médicaments ou aller travailler, et on ne peut sortir que tout seul. Moi, je peux prendre l'air, mais je m'inquiète pour mon pays, la France qui va bientôt passer là aussi au confinement. Je m'inquiète pour ma famille, et puis je m'inquiète parce que les Français n'ont pas encore pris conscience du danger qu'il y a, et donc c'est je vis en Espagne avec un petit peu d'avance ce qui va se passer en France. Alors, puisque tu me poses la question, je vais vous raconter ma vie. Moi, je suis un vieux célibataire, je vis seul depuis très longtemps, la solitude ne me fait pas peur du tout, voilà. Mais je comprends que les gens qui ont l'habitude qui ont besoin d'être tout le temps avec beaucoup de gens s'inquiètent. Moi, personnellement, peut-être que dans un mois, parce que il est évident que le gouvernement a décrété cet état d'urgence pour 15 jours, mais le propre gouvernement espagnol a reconnu que ça allait durer plus longtemps. Moi, dans ma tête, je me prépare pour être enfermé au moins jusqu'au 15 avril. Voilà, donc ça fait partie de la conscientisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je me prépare à un long moment de solitude, mais il y a des livres, il y a la radio, il y a la télé, et puis il y a les amis avec qui on parle, notamment Jean-Louis qui m'a appelé hier. Il y a les amis qui pensent à moi.
Donc, on va pas faire des émissions, on va s'appeler les uns les autres, on va se tenir au courant de notre actualité, courant, d'abord à nous, de confiner.
Oui, personnel. Alors on va expliquer un truc par rapport, parce que je sais qu'il y a du public qui vient en France, qui nous écoute sur Internet, pour dire un petit peu comment ça se passe, en fait, on a le droit dans les magasins, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait la queue pendant 10 minutes, simplement parce qu'il y a un mètre d'écart. On n'entre que quelques-uns à la fois dans le supermarché, et le supermarché était plutôt bien achalandé. Donc, sincèrement, il ne faut pas se ruer sur les produits, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pu acheter tout ce qu'il fallait pour manger. Là, j'en ai pris pour plusieurs jours. Comme ça, si j'ai pas envie de sortir, ou d'ailleurs, il vaut mieux ne pas sortir. C'est compliqué, mais c'est pas ingérable. On ne meurt pas de faim. Voilà, ce que je veux dire. Il y a des endroits dans le monde, il y a des gens beaucoup moins bien lotis. Donc, il faut pas non plus se faire une montagne de ce qu'est le confinement. Ce qui est dangereux, c'est quand on est malade et qu'on doit aller à l'hôpital parce que là, il y aura vite un débordement et pas assez de lits. La présidente de la communauté de Madrid qui est en train de prendre une dimension nationale extraordinaire, qui vient d'avouer qu'elle avait elle aussi le coronavirus, est en train de prendre de très bonnes décisions, le maire de Madrid lui aussi. Alors c'est intéressant parce que, puisqu'on parle un peu de foot, le maire de Madrid a mis une vidéo hier en disant, voilà, je n'ai pas encore pu voir la victoire et la qualification de l'Atlético sur la pelouse de Liverpool parce que j'étais en réunion d'urgence. Et hier soir, il avait 2 heures devant lui, donc il a vu en différé le match. Donc je trouvais ça un peu assez rigolo. De même que la maire de Madrid, elle est pro-Réal. La présidente de la communauté de Madrid, de la région madrilène, est pro-Réal. Le maire de Madrid est pro-Atlético. Par exemple, on sait ici que des hôtels vont être réquisitionnés et médicalisés si d'aventure il y avait trop de malades et que les hôpitaux étaient débordés. Après, tu vas me poser la question, et j'enchaîne directement si tu me permets, mon cher Jalal, comment réagit le monde du foot espagnol? Il réagit de deux manières. De manière très sérieuse et très responsable. On voit par exemple les messages de Messi ou de Ramos et de plein de joueurs très connus qui, eux, relaient les informations et les recommandations, les ordres des autorités. Et c'est important parce que, vous savez, ces gens-là ont un impact notamment sur les jeunes qui feront plus confiance à un Ramos ou à un Messi qu'à un politique. D'un autre côté, vous avez le foot espagnol qui prend ça avec un petit peu d'humour. Par exemple, cette scène extraordinaire, puisque le samedi après-midi devait avoir lieu le match Leganés contre Valladolid, et le speaker du stade a pris en main les réseaux sociaux et a raconté en direct le match qu'il a inventé. Voilà, il commentait minute par minute un match qui n'existait pas. Finalement, Leganés a gagné, bien entendu, 2-1. Voilà, donc je trouve ça très drôle de la part des gens du foot espagnol qui essayent de faire vivre encore un petit peu ce sport dans une période très compliquée.
Du côté de chez toi, mon cher Hervé, et du club dont tu es le spécialiste, hein, l'un des spécialistes au quotidien de l'équipe, Lyon qui crée l'actualité sportive et footballistique en France, même quand il n'y a pas de football, avec cette fameuse proposition de Jean-Michel Aulas de suspendre ce championnat, de l'arrêter complètement et de se baser sur les résultats de la dernière saison. Il y a eu la réponse aussi du président de Marseille et ça a été, allez, on va dire, une réponse cinglante. Dis-nous tout.
Oui, alors voilà, il faut dire, il fait une interview pour Le Monde, Jean-Michel Aulas, et on lui pose la question et alors à votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour cette saison? Et lui dit, malin, parce qu'il ne faut pas oublier que son club est 7e du championnat, il dit, moi je pense qu'il faudrait revenir sur la saison de l'année dernière. Et comme par hasard, la saison de l'année dernière, il était en Ligue des Champions, évidemment. Donc vous pouvez imaginer que ça a légèrement fait sourire quelques présidents de club, et notamment Jacques-Henri Hérault, le président de Marseille, qui a assez vertement répondu. Quelques joueurs de Marseille aussi, Dimitri Payet, par un tweet, qui a attaqué un peu le président lyonnais en disant, mais sous-entendu, il a fumé quoi? Et qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a pris sa température? Donc, et ça a fait monter alors une polémique totalement inattendue quand même, parce qu'en regard de ce qu'est en train de vivre la France, c'est vraiment une polémique qui n'a pas de sens, sur savoir qui aura des places européennes en fin de saison. Et donc Jean-Michel Aulas a fait des communiqués, a parlé, la présidente de la Ligue a parlé aussi. Enfin, c'est-à-dire que ça a été un capharnaüm terrible. Et on arrive à une conclusion que finalement on a créé une polémique alors qu'on est au courant d'absolument rien. On ne sait pas si le championnat reprendra, combien de temps il y aura ce confinement, si les équipes vont continuer à s'entraîner. Alors ça y est, déjà, elles ne vont plus s'entraîner. Et puis évidemment, à partir du moment où il y a confinement qui va être annoncé, là, on n'en parlera même plus. Mais ça a permis d'animer la fin de semaine du football français avec les anti-Aulas, évidemment, qui gueulaient, notamment des clubs de Ligue 2, imaginez. Parce que ça veut dire que si vous regardez le championnat de l'année précédente, ceux qui devaient descendre ne descendent plus. Donc imaginez bien que ceux qui sont leaders de la Ligue 2, par exemple, mais qu'est-ce qui a pris à Aulas? Aulas n'a pas cherché à attaquer Jacques-Henri Hérault, attention. Lui, dans son esprit, il n'y a pas du tout d'attaque contre Marseille. Il s'en moque bien que ce soit Marseille. Si Marseille avait été 14e, c'était la même chose. Il aurait eu le même type de réponse. Lui, ce qu'il ne veut, c'est retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, on sait déjà pas ce qui va en être de cette Ligue des Champions-là. On verra après le confinement si on va pouvoir rejouer au football, si on va pouvoir poursuivre cette Ligue des Champions. Demain, on devra annoncer que l'Euro, d'ailleurs, passe en 2021. Donc, ça veut dire que comme on n'a pas de lisibilité, eh ben, ça a sauté dessus et a dit, puisque le championnat n'est pas terminé, donc on reprend le championnat précédent. Et hop! Il est en Ligue des Champions. Voilà. Donc, ça a été un peu la polémique des jours qui ont précédé. Mais attention, j'ai vu que certains rentraient un peu dans cette brèche-là. Il y a eu la vice-présidente, la présidente d'un club du club de West Ham, hein, qui a dit un peu la même chose, mais pareil, parce que ça lui permettait comme ça d'être tranquille et de pas craindre pour la relégation. J'ai même vu Alan Shearer, hein, qui a dit il faudrait pas que Liverpool soit champion, mais, parce qu'ils finalement ils n'ont pas été champions sur le terrain. Donc vous voyez, ça, il va y avoir après des grandes discussions pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puisque dans les règlements c'est pas toujours très très clair. Et j'espère simplement qu'on va pas se retrouver avec des gens partant au tribunal parce qu'ils vont perdre des places ou gagner des places en expliquant que finalement le championnat n'allant pas à son terme, eh ben c'est un championnat qui n'existe pas. Alors voilà, là pour l'instant on est tous un peu dans l'expectative, mais ce qui est certain c'est que ça a commencé à enclencher au terme de polémiques et d'attaques virulentes entre les uns et les autres, et notamment Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas, et Aulas tweetant des mots sur Jacques-Henri Hérault le dézinguant totalement. C'était très très étonnant, hein, franchement.
En ces temps de crise, franchement, voilà, descendre aussi bas, voilà, c'est pas
sens,
le moment.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment un peu plus violent que de savoir qu'il sera troisième, quatrième ou cinquième du championnat. Bah, mais bon, vous êtes
là,
au cœur aussi.
L'expression, on s'en fout du foot en
bah,
général.
Évidemment.
Surtout, hein, notre ami Jean-Michel Aulas de cette dramatique situation pour aller défendre un petit peu ses intérêts et aussi essayer de, à travers le coronavirus, masquer une saison catastrophique de son club. Je reviens vers toi, mon cher Fred, avec aussi un très très attendu cette réunion de crise de l'UEFA autour, bien entendu, de l'Euro 2020. Alors la question est simple et je vous la pose à tous les deux. D'abord à Fred, l'Euro 2020 aura-t-il lieu, le maintien ou non du tournoi organisé dans 12 pays quand même? C'est une question aux enjeux sportifs et financiers qui sentent juste énormes, est au centre de cette réunion. Comment on voit ça du côté de l'Espagne? J'ai vu qu'un petit peu partout en Italie, en Allemagne, on demande à l'UEFA de reporter cette compétition.
Tout le monde a intérêt, à commencer par l'UEFA, de reporter la compétition à l'année prochaine. Parce que tout le monde a intérêt que la Ligue des Champions, la Ligue Europa et les championnats aient du temps pour pouvoir se terminer. Parce que c'est vrai que si vous enlevez le mois et demi, même un peu plus, quasiment les deux mois entre la préparation et la compétition qui allait être occupée par l'Euro, eh ben vous libérez quasiment deux mois pour avoir un espoir de terminer la Ligue des Champions et les championnats, même si c'est en réduisant par exemple la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec des matchs simples, pas des matchs aller-retour, et la Liga peut-être avec des play-offs pour les montées, pour les places européennes ou pour les descentes. Donc il faut libérer du temps. Et d'ailleurs, hier, Javier Tebas, le président de la Liga, disait sur la radio Copé qu'il était persuadé que le championnat allait pouvoir se terminer. Pourquoi pas une finale de Ligue des Champions un 15 juillet et une fin de la Liga un 13 ou un 11 juillet. Voilà ce qu'on attend en Espagne pour l'instant.
Hervé.
Oui, vous savez, là, il n'y a pas de lisibilité pour nous. On entre à peine dans cette histoire de confinement. On va certainement rentrer dès ce soir ou demain. Donc, c'est compliqué parce que qui peut savoir ce qui va se passer dans les semaines à venir? Alors, on peut voir ce qui s'est passé en Chine, par exemple. Ça a duré à peu près deux mois et demi avant que là, petit à petit, les activités reprennent. Deux mois et demi, ça nous amène déjà, là, on est mi-mars, avril, mai. Si vous jouez deux matchs par semaine, vous pouvez aller plus vite. Effectivement, vous pouvez réduire le format de la Ligue des Champions, hein, sur des matchs simples, ce qui ferait gagner du temps. Et si vous décidez d'aller jusqu'à fin juillet, par exemple, il y a peut-être une possibilité que ça puisse reprendre, peut-être dans des matchs à huis clos d'ailleurs, hein, simplement pour pas prendre trop de risques, mais avec un virus qui aura tellement contaminé de toute façon l'ensemble des pays que maintenant on passera à une autre étape. Mais aujourd'hui c'est compliqué, hein. Je pense qu'on peut pas tellement s'avancer pour dire ce que sera demain, hein. Si vous m'aviez dit il y a trois semaines qu'on allait plus du tout jouer en France, j'aurais été surpris aussi, hein. Rappelez-vous quand les supporters de la Juve étaient venus à Lyon pour le match aller, c'était il y a seulement trois semaines, faut pas oublié, c'était il y a trois semaines. Et moi, à l'époque, d'ailleurs, j'étais pas allé à Lyon, pour tout vous dire, je vous l'avais dit, j'étais pas allé parce que je pense qu'il y avait un risque et c'était inutile de faire courir ce risque. Donc on a eu l'impression aussi qu'il y a eu des décisions politiques, là, parce que pour le coup, c'est une décision politique qui a été un peu longue à être prise chez nous. On a pris son temps, d'une certaine manière, parce que c'était totalement ridicule de faire venir 3000 Italiens pour un match de football. Et puis après, ça a suivi son cours. Donc, pour l'instant, j'avoue que là, j'ai pas de lisibilité, moi, sur ce qui peut se produire dans les semaines à venir, je pense que c'est compliqué, très très compliqué. Est-ce que tout ça va reprendre? Vaudrait mieux que ça reprenne, voilà. Vaudrait mieux que ça reprenne. Bon, bien sûr, pour que leur vie reprenne, ça, déjà, c'est le plus important. Mais aussi, pour, sur le plan sportif, puisqu'on parle de football, qu'il y ait une forme de lisibilité sur ce qui peut se produire la saison d'après. Et puis qu'on puisse repartir sur quelque chose de plus sain. Parce que j'ai bien peur, vous allez voir, qu'on se retrouve au centre de polémique. Parce qu'une fois que le virus sera passé, on va reprendre notre vie et notre cours normal. Et avec notamment les vraies polémiques sur le football. Et là, vous allez vous retrouver avec des vraies polémiques sur est-ce que ça méritait de descendre, pas descendre, on n'a pas joué tant de matchs, on va attaquer devant les tribunaux. Attention, tout est possible.
Voilà, tout est possible et tout va très très vite hein, depuis quelques jours, quelques semaines. Fred, il y a eu aussi ces 5 cas testés positifs à Valence qui avait croisé en Ligue des Champions en déplacement aller-retour le club de l'Atalanta Bergame, et Bergame se trouve dans l'une des régions les plus touchées en Italie hein, par le coronavirus.
Oui, le match s'était déroulé à Milan, l'un des épicentres de l'épidémie, ouais. et on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des joueurs de Valence touchés. Donc, trois joueurs, Gaïa, Mangala,
Garay.
Et Garay, donc trois joueurs de trois nationalités différentes, plus l'un des médecins et ce qu'on appelle le délégué de l'équipe qui sont touchés. En deuxième division, Elche, Jonatas De Jesus, l'attaquant de l'équipe d'Elche, a lui aussi été contrôlé positif. Donc voilà, mais on sait très bien qu'il y en aura beaucoup dans les semaines qui viennent. Quoi. Voilà, c'est logique dans un pays qui est, je vous le rappelle, le plus touché après l'Italie. Il est évident que des sportifs vont continuer à être contrôlés positifs. On voit par exemple que la femme du président du gouvernement, Pedro Sanchez, est positive, que la ministre des droits de la femme est positive. Voilà, il y a plein de cas ici. Donc le championnat ne sera pas, je veux dire, les sportifs ne seront pas épargnés. Mais bon, chacun travaille chez lui. J'ai eu l'occasion d'échanger hier par message privé avec un joueur important du Real Madrid, enfin, qui me disait je suis tranquille à la maison, mais je bosse à fond. Voilà, parce qu'ils ont conscience que ben, peut-être que dans 2 mois, ils vont pouvoir refaire leur métier et qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, être dans une forme plutôt correcte pour prendre l'entraînement. Il ne faut pas prendre 4 kilos pendant cette période. Donc, les joueurs font preuve de beaucoup de conscience professionnelle. Puis certains essaient de mettre un petit peu d'humour à l'image d'Isco, qui s'est mis à la peinture et qui met ses tableaux sur Internet en photo. Il vaut mieux qu'il continue dans le football.
Merci Fred, merci Hervé. Hervé, Fred, je vais vous demander à chacun un petit message pour nos auditeurs, un petit message d'une trentaine, quarantaine de secondes, voilà, des auditeurs à qui on donne rendez-vous après la fin de cette crise, hein, tous ensemble, vous et moi. Allez, je donne la parole d'abord à Hervé.
Eh bien alors, je dis aux auditeurs d'avoir confiance dans tout ce que font les gouvernants, parce que là, on est bien sûr à la merci de ce que décident les politiques. Hein. Nous, on est là pour parler de football. On est tous ensemble, on est solidaires, et puis on s'en sortira. Vous allez voir, on verra des super matchs. Simplement, c'est une mauvaise période à passer. Il faut rester effectivement certainement confiné pour la plupart des personnes chez nous. Mais vous allez voir, après, ça va rebondir, et puis on va vivre des super moments de sport. Surtout, prenez soin de vous, et puis on est tous ensemble.
On est tous ensemble, mon cher Fred.
J'aimerais faire un petit peu d'humour, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai été tellement choqué de voir mes compatriotes français faire n'importe quoi. Alors, surtout, amis qui nous écoutez les recommandations, les ordres des autorités. Quand on vous dit de ne pas sortir, ne sortez pas. C'est compliqué, certes, mais il y a la radio, il y a la télé, il y a des livres. Écoutez les autorités pour éviter d'être malade et éviter d'encombrer et d'arriver à un surplement, un dépassement des hôpitaux. Et puis là aussi, hein, moi en plus je suis croyant, donc faisons confiance à Dieu, faisons confiance aux autorités, à tous ces gens qui travaillent pour nous, pour sortir vite de cette crise et reprendre une vie normale, même si elle sera peut-être différente après ce moment. Et peut-être mieux parce qu'elle nous amènera peut-être à une prise de conscience de beaucoup de choses. Mais je suis sûr qu'on reviendra bientôt pour rigoler un bon coup et parler, pour mon cas, de la meilleure Liga du monde.
Merci beaucoup Fred, merci Hervé. Vous allez nous manquer, on va se retrouver tous ensemble. Bien sûr, on va garder contact entre nous, mais on va se retrouver rapidement après la fin, comme tu le dis, Inch'Allah, de cette crise. Ciao, ciao les amis, restez avec nous. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie de l'après-match. Bienvenue les amis à cette seconde partie de l'après-match consacrée bien entendu au coronavirus et aux impacts sur le sport en général, le foot en particulier. J'accueille après Fred Hermel et Hervé Penaud notre ami Simone Rovera depuis Turin. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Avec nous également notre monsieur football anglais, Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Bonsoir Jalal, bonsoir Simonet, bonsoir à tous.
Je vais commencer par toi donc Simonet Rovera. Comment ça va? Comment vas-tu? Ce que j'ai fait également avec tout le monde. Comment tu vis tout ça aujourd'hui? Parle-nous d'abord, avant de parler de football, de ta situation personnelle, mon cher Simonet.
Alors l'Italie, c'est le pays qui a commencé un peu plus tôt avec cette situation. On est en confinement depuis le début de la semaine, toute l'Italie. Depuis la semaine dernière, il y avait déjà des zones rouges en toute Italie. Moi, je suis à Turin. Je suis sorti deux fois, peut-être trois fois cette semaine, toujours pour des raisons important, nécessaire, comme dit les décrets du gouvernement. Je suis allé à faire les courses, je suis allé à la pharmacie, je suis allé à récupérer ma fille chez les grands-parents. Et comment ça va? C'est étrange de sortir dans la rue. Ce sont presque vides les rues. Quand tu vois quelqu'un qui se balade ou va courir, tu te demandes qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'ai même pas envie de me mettre à discuter avec les gens que je vois qui respectent pas les consignes, les gens qui sont au parc avec les enfants, c'est étrange. La chose qui m'a frappé le plus, mais quand même, c'est Turin, c'est une ville où il y a beaucoup de transports en commun et de voir les bus qui sont vides, des bus fantômes. C'est pour ça que on attend de voir si dans les prochaines décisions du gouvernement, il y a l'arrêt presque total des bus. Parce que quand même, ça fait étrange de voir des bus qui passent pendant les journées. Ils sont pleins de gens, des étudiants, des gens qui vont faire les courses. Et là, je les vois vides, sans personne. Et tout ça, ça rend encore un peu plus compliqué, on peut dire, la situation. Pour le reste, on est à la maison. On doit rester à la maison. On est obligé de rester à la maison. C'est pas un grand sacrifice qu'on nous demande. Donc, je respecte les consignes et j'espère que tout va se bien passer. Et j'ai inventé une histoire, voilà, pour la petite, pour Ginevra. Et je racontais qu'il y a une sorcière dehors qui a lancé une sortilège qui nous empêche de sortir. Et on doit se battre contre la sorcière en attendant de pouvoir sortir de la maison.
Mais après, il faut trouver une autre histoire pour la petite, hein. Parce que si elle veut plus du tout quitter la maison, là, ça va être compliqué.
voilà. Mais bon, là, quand tout ira bien, il y aura l'envie de voir les grands-parents, l'envie d'aller à faire la danse à l'école, l'envie d'aller jouer sur les toboggans. Je pense que tout ça va aider à l'envie de sortir. Mais pour l'instant, c'est une guerre psychologique. Voilà. Et on est en train de la gagner. Mais on est qu'au début.
Mon cher Aurélien, tu es actuellement à Paris, comment tu vis ça?
Moi, je me suis auto-confiné globalement depuis ce week-end en réalité. Donc un peu comme Simonet, sorti à minima, je suis allé faire quelques courses ce matin. Et puis avec ma femme, on reste à la maison tout simplement. Et puis on s'occupe comme on peut, on travaille un peu. J'ai la chance d'avoir une terrasse, donc je vais un petit peu sur la terrasse de temps en temps. Mais c'est vrai que Paris ne s'est pas encore totalement converti à ce confinement qui devrait être probablement annoncé, en tout cas durci ce soir par Emmanuel Macron. Donc moi j'habite au bord d'un canal et il y a encore là en ce moment pas mal de gens qui se baladent, qui font un footing, qui se promènent. C'est assez étonnant alors que les consignes gouvernementales et sanitaires sont assez claires. Il faut vraiment éviter au maximum de sortir parce que croiser quelqu'un de loin, certes, il y a moins de risques, mais c'est pas complètement sûr non plus. Le virus apparemment peut rester dans l'air quand même quelques temps. Donc voilà, donc il faut, si on veut casser la courbe épidémique, rester chez soi. C'est pas encore fait, on va dire. C'est les Français sont réfractaires, comme dirait un certain président, ça va peut-être être un peu plus respecté, je pense, à partir de ce début de semaine, parce que les mesures qui se préparent, je pense, sont plus drastiques, et puis y aura peut-être des interventions des autorités pour rappeler aux gens qui persistent à se déplacer que c'est à la fois pas raisonnable et puis potentiellement illégal selon les mesures législatives qui sont prises.
Simone, parlons maintenant de l'Italie, du football. Quelles sont les dernières infos, les dernières décisions?
Tout le monde attend de voir ce qui se passera demain. Avec ces rendez-vous de l'UEFA, on sait tous qu'à partir de ce que décider les gouvernements centraux de football, les différentes ligues et fédérations vont prendre acte de ça et décider pour ce qui concerne la fin du championnat. L'information du jour qui a été publiée par les Corriere dello Sport, c'est déjà qu'il y a un calendrier prêt, on peut dire un calendrier fantôme, un calendrier secret, avec des Final Four prévus pour les deux coupes européennes, donc à Gdansk pour l'Europa League et à Istanbul pour la Ligue des Champions, et avec une timing quand même très très strict entre la reprise potentielle début mai et la fin de la saison le 30 juin. On rappelle que tous les contrats s'expirent le 30 juin pour les joueurs, et continuer au-delà de cette date, il faudrait avoir des accords légaux entre fédérations, joueurs, associations footballeurs, ça va être compliqué. Je souligne deux prises de position très dures du président de l'association footballeur italienne, Damiano Tommasi, qui a recadré certains clubs qui voulaient déjà reprendre les entraînements de façon collective mais à petit groupe, et l'association de médecins italiens qui là aussi est contre la reprise des entraînements. Personne s'entraîne aujourd'hui en Italie, personne sait quand on pourra s'entraîner. Et concernant la reprise, comme je disais, même si actuellement le championnat est arrêté jusqu'au 3 avril, les opinions des acteurs de football sont unanimes sur le fait que sera compliqué de reprendre avant la deuxième moitié d'avril, voire le début de mai.
Et du côté de la Première Ligue, mon cher Aurélien, avec plein de petites polémiques.
Oui, enfin, c'est clairement la foire d'empoigne sur la question de ce qui va se passer en Première Ligue. Un petit peu comme ce qui se passe en France, hein, l'Italie est clairement plus sage sur ce dossier, mais alors l'Angleterre, c'est en train de s'écharper assez violemment sur, en gros, les trois options qui existent, c'est-à-dire une reprise du championnat, là aussi probablement peut-être début mai, mi-mai, voire fin mai, un gel du championnat à l'issue des journées qui ont été jouées, donc on était à la 29e ou à la 30e, Liverpool qui serait champion, et puis derrière les classements pour les coupes européennes, etc. Ou alors une annulation pure et simple de ce championnat 2019-2020. Alors cette dernière option, elle est défendue notamment par une ancienne gloire de la Première Ligue, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Alan Shearer, qui a dit « de toute façon, il est complètement illusoire de penser que cette Première Ligue va pouvoir reprendre dans des bonnes conditions. Annulons, repartons de zéro et puis recommençons du début sur 2020-2021. » C'est aussi le point de vue de la directrice générale de West Ham, qui estime que là aussi les conditions ne sont pas réunies. Mais autant vous dire que dans pas mal d'autres clubs, la vie est différente. Évidemment, du côté de Liverpool, qui avec 25 points d'avance peut légitimement dire que le championnat était quasiment gagné et que ça serait très injuste pour l'équipe de pas être sacré à l'issue de cette saison. Mais aussi du côté d'autres clubs qui sont très bien classés à l'heure actuelle, que ce soit Leicester par exemple ou Sheffield, qui sont tous les deux européens à l'heure actuelle et qui pourrait se sentir aussi légitimement lésé de ne pas, si ce n'est geler la situation à l'heure actuelle, mais en tout cas terminer le championnat. Donc je pense qu'il y a vraiment deux camps qui sont en train de se mettre en place dans la Première Ligue. La fédération va probablement, en tout cas c'est en discussion, faire voter les clubs, leur demander de décider en réalité. et puis voir ce qui en sortira. Bon, écoutez, on va attendre, ça va probablement se préciser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Évidemment, il y aura des déçus, mais en tout cas, c'est sûr que la Première Ligue, il est très peu probable que ça reprenne en effet, comme en Italie, avant le mois de mai.
Les amis, je vais vous demander de vous adresser un petit peu à nos auditeurs. Je vous rappelle que cette émission, l'après-match, est la dernière jusqu'à nouvel ordre. Radio Méditerranée Internationale qui va vous annonce maintenant l'arrêt de toutes les émissions sportives et de tous les rendez-vous sportifs sur notre antenne jusqu'à nouvel ordre pour cause, bien entendu, de la propagation du coronavirus, l'arrêt de toutes les compétitions sportives, que ce soit au Maroc, principalement aussi en Europe. La parole d'abord à Simone, un petit message pour les auditeurs en espérant le retrouver le plus tôt, mais vraiment le plus tôt possible.
Mon message, c'est d'espoir. L'espoir vraiment de vous retrouver très tôt, de vous raconter une saison de finale extraordinaire en Serie A, en Ligue des Champions. Et pour le peu que je peux vous dire, pour la situation que j'ai vécue, chaque petit geste de sécurité, chaque petit geste qui peut éviter la propagation de ce virus, il faut les faire. Ça peut être difficile, ennuyant de rester à la maison. Mais chaque heure en plus que vous passez à la maison, c'est une heure où vous n'aidez pas ces virus à se diffuser dans le monde. Donc vous aidez tout le monde, les médecins, les soignants, tous les gens qui sont en train de travailler pour nous sauver la vie. Et sauver la vie à toutes les personnes qu'on aime bien. Donc restez à la maison et on se retrouvera bientôt.
Merci beaucoup Simone, on va te retrouver toujours avec un énorme plaisir. Et de toute façon, nous on restera en contact. Toujours à s'échanger dans notre confinement aussi, à faire un peu une émission entre nous sur notre groupe WhatsApp. Merci beaucoup Simone.
Ciao.
Avec nous donc également Aurélien Devernois. C'est à toi Aurélien.
Oui, écoute. La même chose que Simone, hein, globalement, c'est clairement un mauvais moment à passer. C'est un moment qui va être difficile pour plein de gens parce que il va y aussi y avoir des malades et il faudra les soutenir et il faudra penser à eux, penser évidemment au personnel soignant. Après, j'ai envie de dire, voilà, il faut faire vraiment très attention. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de gens parmi nos auditeurs qui aiment bien faire du sport, se retrouver entre amis pour faire un petit match de foot, etc. Là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire parce que faire du sport aujourd'hui, c'est un vecteur de contamination extrêmement puissant. Il y a des contacts incessants, etc. Même si c'est frustrant de pas pouvoir aller taper dans un ballon, de pas voir ses amis, etc. Évidemment, de pas pouvoir toujours voir sa famille. Il faut le faire, ça va durer quelques semaines, espérons pas trop longtemps, et puis derrière, en effet, on aura peut-être, en ce qui concerne les compétitions professionnelles, des choses hyper intéressantes à découvrir, parce que si il y a un Final Four ou un Final Eight en Ligue des Champions, ça va être quand même assez extraordinaire de voir un mini-tournoi se dérouler sur quelques jours avec les meilleures équipes du monde. Si il y a des play-offs aussi dans les différentes ligues national, ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, il y a peut-être aussi pour les fans de sport des récompenses au bout. Donc attendons, soyons patients, soyons sérieux, soyons prudents, et puis ça devrait bien se passer.
Merci beaucoup Aurélien, on te retrouvera avec ta magnifique Première Ligue avec un énorme plaisir. Merci Aurélien. Direction maintenant l'Allemagne, la Bundesliga, avec cette réunion très importante aujourd'hui. D'abord, salut David.
Salut Jalal, salut à tous.
Une conférence de presse aujourd'hui de la Bundesliga. Qu'est-ce qu'il en sort ?
Alors la Liga, par l'intermédiaire de son président, M. Seifert, avait convenu de tenir une conférence de presse aujourd'hui, c'était en milieu d'après-midi, et il n'en est pas sorti grand-chose, parce qu'en fait, on se retranche derrière les décisions qui vont être prises dans les prochaines heures, les prochains jours, par les instances supérieures, l'UEFA notamment. Simplement, quelques informations à rappeler de contexte. L'Allemagne a confirmé qu'elle interrompait ses compétitions de football première et deuxième division décision jusqu'au 2 avril. Ça comprenait concrètement une journée de championnat plus la trêve internationale, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose dans le contexte actuel. On a été très surpris en Allemagne, bizarrement, parce que on était un peu hors sol, je dois dire, par rapport au contexte européen ou mondial. On avait l'impression d'être peut-être un peu immunisé, et on a été très surpris, à l'image du Bayern, entre vendredi et samedi, de la décision de renoncer à la journée de championnat. On en avait parlé dans la dernière émission, et donc ce renoncement pour 15 jours, 3 semaines a été acté et confirmé. On a confirmé aussi, pour l'instant, ce n'est pas définitif, mais c'est l'orientation première prise sur le plan financier. On a confirmé qu'aucune aide immédiate n'allait être apportée au club, quelles que soient leurs difficultés financières éventuelles, dans les prochains temps, dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est quelque chose qui peut être rediscuté, mais pour l'instant, en tout cas, on n'apportera pas d'aide financière au club. Et donc, troisième point, mais ça confirme ce qui a été dit plus tôt dans l'émission, j'imagine, on se range derrière les décisions qui vont être prises dans les prochains jours, peut-être demain, par l'UEFA pour la suite des compétitions, et on oublie la possibilité d'aucun scénario, Jalal, en Allemagne, avec la possibilité de continuer le championnat et d'aller à son terme si le calendrier le permet, avec la possibilité de figer la compétition au stade où on en est, avec donc un Bayern qui serait champion, il y aurait évidemment des grincements de dents, la possibilité donc de garder les 18 clubs de la première division pour la saison prochaine et d'y ajouter les clubs qui sont en tête de la deuxième division actuellement et qui sont en position de montée. Voilà, tous les scénarios sont possibles et on attend donc des décisions des instances supérieures pour la suite des événements.
Mon cher David, comme c'est la dernière émission jusqu'à nouvel ordre, hein, oui, qui va nous réunir, on espère, pour très très longtemps. Je rappelle encore une fois à nos auditeurs l'arrêt de toutes les émissions sportives sur Mehdi, hein, jusqu'à nouvel ordre. Un petit message pour ces auditeurs qui nous suivent tout le temps sur Mehdi.
Alors c'est assez simple, Jalal, j'ai envie de, avec le sourire, de leur dire de faire comme les joueurs de football professionnels, c'est-à-dire de conserver le moral, la santé et la forme. Certains vont devoir rester un peu isolés chez eux, tout comme tous les citoyens et comme tous les sujets, et vont devoir donc faire preuve de patience et essayer de garder la forme seul à la maison, si je puis dire, avec peut-être quelques exercices physiques, et pour les autres auront peut-être un petit peu plus de liberté pour se retrouver à quelques-uns ou à plusieurs pour faire là aussi quelques exercices physiques. Je pense que le physique et le moral, la psychologie et la forme vont ensemble, et donc il faut garder le plus possible la possibilité de faire un peu d'exercice, parce que c'est ça qui nous permettra de patienter quelques semaines jusqu'au retour des joies des sports qui nous intéressent. Voilà le message que j'ai envie de passer à nos éditeurs, conformément à ce qui est passé aux joueurs de football professionnels.
Merci beaucoup, mon cher David Lortolari, notre consultant pour le football allemand. Merci à Fred Hermel, à Hervé Penaud, à Simone Rovera, à Aurélien de Vernois. Je vous rappelle une fois encore l'arrêt de toutes les émissions sportives sur Mehdi 1 jusqu'à nouvel ordre. On espère vous retrouver très très prochainement.